Alors, pour cette dernière table ronde, on a une bonne heure ensemble pour le dernier sujet de ce qui est un peu dans la prolongation. On a quand même pas mal discuté cet après-midi des questions de recyclage, d'autres modes de production et puis de sobriété finalement dans la production et dans l'utilisation. Et là, on s'intéresse pas mal à la deuxième vie des produits. Donc, pour cette dernière table ronde, j'ai avec moi Elsa Morisset, qui est juste à côté de moi et qui a créé la marque Elsa Dorsa, la friperie Elsa Dorsa. Voilà la marque Elsa Dorsa. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et puis, Louise Le Boucher de Good Loop, qui fait de la réparation de vêtements de sport. Donc, je vous laisse une petite minute chacune pour vous présenter.
Bonjour à tous, du coup je m'appelle Elsa et j'ai créé la friperie Elsa Dorsa. Je préfère dire que c'est une marque étant donné que je choisis les pièces une à une et que je me suis spécialisée en fibres naturelles et mode intemporel, donc je revends que des vêtements qu'on ne peut pas dater et qui sont au moins entre 70 et 80% de fibres naturelles. Donc je suppose que vous savez ce que c'est-à-dire cachemire, laine, coton, soie, alpaga, etc.
C'est assez unique, non, ce type
je
de friperie?
Je pense que je suis... Je sais pas. En France, j'ai l'impression d'être un petit peu seule. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait un peu pareil au Canada.
Voilà. Et tu es à Lyon, c'est ça?
Et
la
je suis basée à Lyon.
Basée,
oui,
à Lyon,
exactement.
Louise. Et bon, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Louise. Et avec mon associée Solène, en fait, on est toutes les deux passionnées de sport outdoor et aussi de nature et de grands espaces. Et en fait, on a tout simplement réalisé un constat, c'est que... on est fan de ces espaces-là et en même temps parfois pollueur de ces espaces à cause des vêtements que l'on porte au quotidien dans les activités d'outdoor. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de prolonger la durée de vie de ces équipements. Donc on s'est lancé comme mission de prolonger la durée de vie de tous les textiles outdoor. On spécialise dans le textile parce qu'on est spécialisé du coup dans la couture. Et l'idée, voilà, c'est de rallonger la durée de vie pour pouvoir utiliser plus longtemps ces vêtements. Que ce soit par attachement parce qu'on a vécu une belle aventure avec, par souci financier parce que c'est aussi moins cher la réparation, ou tout simplement par conviction écologique. Et donc on a créé Good Loop, qui est une plateforme digitale de réparation en ligne qui permet aux particuliers et aux marques de réparer ces équipements.
D'accord, donc tu nous expliqueras les deux intervenants finalement de cette plateforme. Elsa, qu'est-ce qui t'a conduite à te lancer dans ce projet et puis en quoi ça consiste alors d'avoir une friperie avec des vêtements essentiellement issus de fibres naturelles?
Alors, ce qui m'a lancée dans ce projet, c'est probablement que j'ai été un petit peu écœurée par la fast fashion. J'ai travaillé pendant 6 ans pour l'industrie de la mode, donc d'abord dans le sportwear pour une entreprise qui s'appelle Norprotex. C'est un groupe qui vend uniquement en grande distribution, des marques très peu connues du grand public parce qu'on n'achète pas souvent nos vêtements en grande distribution. Donc c'était long à l'époque parce que ça a fermé depuis. C'est commercialisé Longboard, Lulu Castagnette, Baby Gros. Et donc sur place, ça m'a permis de voir du stylisme jusqu'à la... Alors pas la création puisqu'elle est faite en Asie, mais au moins recevoir les échantillons et voir un petit peu tous les déchets qu'il y avait autour de ça. Et ensuite, j'avais un poste où je faisais du marchandisage dans les magasins, donc j'allais jusqu'à la vente finale et ce qu'on faisait après des invendus, etc. Donc je suis restée 4 ans et demi chez eux et ensuite j'ai voulu changer. Donc là, je suis rentrée dans le groupe Inditex que vous devez connaître. Donc c'est les marques comme Zara, Bershka, Oshio, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, etc. Donc moi, je travaillais principalement pour Bershka pendant uniquement 1 an, parce que là, j'ai été écœurée par tout ce que j'ai pu voir et j'ai surtout eu très peur pour ma santé, parce que j'étais au déballage des colis 3 fois par semaine et la collection. Et l'odeur qu'avaient les colis m'a un petit peu alertée sur qu'est-ce qu'on mettait sur le textile et pourquoi les colis arrivaient avec une odeur aussi forte, pourquoi de temps en temps, on devait mettre les pièces en réserve pendant 1 à 2 journées avant de pouvoir les mettre en magasin. Et c'est là où j'ai décidé. Moi, là-bas, je m'habillais en seconde main. Grosse crise d'adolescence où j'ai voulu un peu aller à l'envers de ce qu'on m'avait appris. Donc, j'ai voulu consommer que du neuf. Et voilà.
Tu as été habillée en seconde main.
Donc, j'ai été habillée en seconde main de ma naissance jusqu'à ma crise d'adolescence. Et toute mon adolescence, du coup, en neuf de fast fashion. Et donc, suite à ça, j'ai donc démissionné aussi de Bershka, pris un poste complètement dans autre chose parce que mon rêve était de vivre à Lyon. Et une fois à Lyon, j'ai décidé de repartir dans ce que j'aimais. Donc j'ai commencé à être bénévole à Emmaüs pendant... Donc j'y suis toujours. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis bénévole à Emmaüs.
Et là, du coup, ça m'a permis de renouer avec le seconde main. Et donc, qui dit fast fashion dit que j'ai aussi surconsommé la mode. J'avais un dressing qui était vraiment plein. Et un jour, j'ai un petit peu craqué. Et j'ai tout mis par terre en me demandant pourquoi ce vêtement, je le portais toutes les semaines et celui-là, non. Et comme j'aime les maths, j'ai fait un tableau Excel où je me suis dit, on fait des croix en face de pourquoi je porte ce vêtement et celui-là, non. Et en fait, je me suis rendu compte que je portais principalement les vêtements en fibre naturelle parce qu'ils allaient... Avec ma peau, ça allait mieux, ça réagissait mieux. Il y avait moins d'odeur quand je transpirais. J'ai une peau qui est sensible, donc ça ne me grattait pas si je ne portais pas de la laine, que le polyester ne m'allait pas, etc. Et de suite à ça, j'ai monté Elles adorent ça et je me suis spécialisée dans ce qui, moi, m'allait, en fait, en espérant que ça aille au plus grand nombre.
Ok, c'est une belle prise de conscience. Ça ne doit pas être évident aussi de changer du jour au lendemain ses habitudes, ses goûts, peut-être, parce que quand on s'habille dans la fast fashion, c'est aussi... une autre identification, d'autres vêtements, une autre silhouette en fait. Et c'était un peu un retour plutôt à des goûts que tu avais avant.
Je sais pas, j'ai toujours voulu avoir un style un petit peu différent des autres. Donc le second main allait bien quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'ai trouvé que de travailler dans l'industrie du textile m'avait obligée finalement à Bershka. Il faut savoir qu'on a des uniformes imposés. On a 150 € pour 6 mois de collection et on doit être habillé en Bershka tous les jours. Ça passe pas. Et ensuite, on a une carte, en fait, où on a une réduction sur tout le groupe entier. Et en fait, cette carte-là, on la dépense. En fait, ils reprennent de notre salaire. Enfin, on n'en a pas l'impression quand on travaille, juste pour pouvoir être habillé en Bershka tous les jours. Sinon, on est réprimandé. On ne peut pas évoluer, en fait, au sein de l'entreprise si on n'a pas la nouvelle collection sur nous. Donc ça, déjà, c'était un problème. Moi, le fait d'être obligé d'acheter, j'avais moins envie d'acheter parce que j'aime pas les contraintes. Donc ça a été un premier problème. Et le second problème qui ne va pas à toutes les personnes travaillant fast fashion, ça, moi, ça a été l'anorexie. Et du coup, en fait, j'ai voulu sortir de tout ça pour m'en sortir déjà, moi, de toute cette image qu'il y avait autour. Donc très vite, je me suis mis dans l'intemporel et dans le large et de me retrouver moi-même, en fait, et ce qui me plaisait à moi. Ça ne se fait pas tout de suite, mais en tout cas, ça se fait facilement parce que quand on aime le vêtement, on aime la matière, je pense, au début. Et après, le tomber, il y a des marques qui sont très fortes là-dedans et on peut s'amuser à les trouver en seconde main une fois. Moi, c'est plus des marques que je recherche finalement. Enfin, bah, finalement, des marques...
Des styles.
Des styles, exactement.
Et donc, tu as fondé cette friperie, donc à quel moment ?
Donc, j'ai fondé cette friperie il y a 5 ans.
Et tu as décidé d'y vendre essentiellement des produits que tu pouvais mettre, en fait, des vêtements qui te plaisaient, que tu pouvais porter, donc issus, enfin fabriqués à partir des fibres naturelles.
C'est
comment,
ça.
Comment tu trouves ce stock ?
Alors ça, c'était un deuxième point un peu compliqué, c'est que du coup, je me suis renseignée, enfin, grâce à MAU, j'ai pu visiter toutes les entreprises Le Relais et pareil, je ne suis pas... toujours d'accord avec tout ce qu'ils font, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même ils ont énormément de dons et du coup ils ne peuvent pas tout gérer. Ça, c'est pas de leur faute, c'est à cause de la société sur consommation. Et du coup, il y a beaucoup de ces dons qui partent en Afrique dans des déchetteries, etc. Et ensuite, j'ai un petit peu voyagé en Europe de l'Est et donc je suis tombée aussi sur les ballots qu'on envoie à ces personnes-là. Et donc il faut savoir que c'est trié par gamme, donc toutes les robes ensemble, tous les t-shirts ensemble, etc. Et ça m'a un petit peu dérangée. Donc moi, je n'ai pas voulu travailler avec les professionnels qu'on connaît aujourd'hui où on peut se fournir en tant que friperie. Donc je me fournis exclusivement sur les vide-greniers et les associations. Étant donné que je suis revendeuse, la seule chose que je fais, c'est que je négocie jamais les prix parce que je pars du principe où si moi, ça m'est trop cher, ça sera l'occasion pour une personne qui va tout de suite le porter sans marger dessus de l'avoir. Et au tout début de mon entreprise, j'avais décidé de rien acheter à Lyon pour pouvoir laisser... aux Lyonnais qui avaient moins de moyens, toutes ces fibres-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est énormément. Et donc, je suis obligée de commencer à chiner à Lyon, sauf à Emmaüs, puisque, étant donné que je suis bénévole là-bas, je décide de rien acheter chez eux. Mais le sourcing est très compliqué, il faut être honnête. La génération qui arrive est de plus en plus sensible aussi aux fibres. Et je vois de plus en plus de jeunes regarder les étiquettes quand je chine. Et du coup, je trouve que c'est génial parce que forcément, il y aura... je pense moins de maladies, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sortent sur tout ce que les fibres peuvent faire au corps et toutes les maladies que ça provoque aujourd'hui. Mais du coup, la marchandise est dure à trouver. Et après, vous avez soulevé le problème tout à l'heure à la fin de la conférence, où avec les grosses plateformes de revente et toutes les enseignes qui récupèrent dans les bornes, dans les magasins, etc., la marchandise est de plus en plus dure à trouver, donc il faut trouver une réelle solution. Donc je sais que mon business n'est pas... enfin, je pourrais probablement jamais en vivre. Étant donné que c'est trop d'heures de travail
de recherche, en fait. C'est ça, d'aller toi-même, finalement, aller sélectionner. Où il faudrait des personnes qui viennent avec toi, oui. Des chineurs. ou des systèmes de... Parce que j'imagine que tu n'es pas la seule friperie qui a peut-être ce problème d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a des questions de s'organiser entre petites friperies indépendantes, disons? Parce que je sais aussi qu'il y a des gros revendeurs, en fait, que c'est quand même la seconde main, c'est très bien, c'est énormément développé. Est devenu aussi à la mode et puis pour de très bonnes raisons, et qu'il y a des réseaux aussi qui revendent ou dans lesquels les friperies peuvent aller puiser, des gros réseaux.
Tous ces réseaux-là, en fait, ils prennent des choses qui sont... Tant que je ne sais pas, en fait, le fond de où va leur argent, comment ils ont eu la marchandise, etc., moi, personnellement, je ne préfère pas les financer. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas combien de kilomètres a fait le vêtement. Je sais que, par exemple... J'ai entendu récemment que Kiabi, du coup, se lançait dans la seconde main. Et tous les vêtements qui vont être donnés dans Kiabi en France vont être traités à Lille. C'est quelque chose qui, moi, me paraît complètement aberrant. Je pense qu'on a des personnes dans la région Rhône-Alpes et toutes les régions qui sont capables de trier les vêtements si on leur explique comment faire, pourquoi avoir une... Alors, pour réduire les coûts, c'est plus simple d'avoir une plateforme loin. Mais du coup, ça ne convient pas avec mes engagements. Donc, aujourd'hui, je mets pas mal de petites choses à place. Par exemple, il y a une friperie vegan à Lyon qui s'appelle Clara. Elle fonctionne sur des dons, donc on lui apporte de la marchandise et tout ce qui ne l'intéresse pas, parce qu'il y a des fibres animales, elle le met de côté et elle dit que du coup que c'est moi qui vais venir. Et du coup, moi, des fois, je chine trop rapidement, ou on va me faire des dons dans ma famille, ou maintenant, il y a des clients qui commencent à me faire des dons. Et tout ce qui n'est pas en fibres naturelles, je l'apporte à Clara. Comme je sais que mon business n'est pas pérenne, moi, j'ai commencé aussi à me développer en tant que chineuse et je chine pour des friperies. Du coup, ça me permet de rentabiliser mon temps de chine. Et du coup, je demande aussi aux friperies, quand elles vont chiner ou si elles vont chez des professionnels, de regarder pour moi. Et on commence à mettre en place du troc. Mais c'est un... Voilà. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et on a l'impression de perdre un petit peu le temps. Ce serait tellement plus simple d'aller chez un fournisseur. Mais tant qu'on ne pourra pas acheter à la pièce et savoir réellement d'où vient le produit, personnellement, je ne me sens pas prête.
Bon, c'est un modèle aussi très poussé, finalement, avec des critères assez rigoureux. Très bien. Alors, Louise, vous, à Goodloop, tu as commencé à l'expliquer un petit peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un petit peu l'origine? Donc, sur votre plateforme, peuvent venir à la fois des consommateurs, des citoyens et des marques venir faire réparer leurs vêtements. Comment ça se passe?
La plateforme, elle est plutôt dédiée aux particuliers. En fait, le constat qu'on a fait également, c'est que quand un particulier fait un accroc dans sa veste de ski, par exemple, un petit sapin, ça arrive vite. En fait, il y a trois freins auxquels il fait face pour réparer. Le premier, c'est que bien souvent, il ne sait pas à qui s'adresser, parce que réparer un vêtement technique pour garder toutes les fonctionnalités imperméables, etc., c'est pas évident à trouver. Le deuxième frein, c'est que souvent les réparateurs sont peu digitalisés et dans les stations de ski, etc. Et le troisième point, c'est que du coup les délais sont longs et par moments, on peut attendre jusqu'à 1 à 3 mois dans certains cas pour pouvoir réparer son vêtement. Et donc on pourrait se dire qu'il peut s'adresser à sa marque, mais la marque aujourd'hui, elle n'a pas forcément cet état d'esprit. En tout cas, c'est un vrai accompagnement au changement qu'on essaye de faire. C'est qu'une marque, elle est faite pour concevoir et vendre. Et on le voit, on l'a suffisamment évoqué dans la table ronde juste avant. Et donc, elle n'est pas dans cet état d'esprit de éco-concevoir d'une manière à ce que le vêtement soit réparable. Des marques commencent à s'y mettre. Et c'est super chouette de voir ces nouvelles initiatives qui se mettent en place. La deuxième chose, c'est que la plupart, pour ces vêtements techniques, malheureusement, c'est encore énormément conçu en Asie. Et donc, elles n'ont pas les pièces et les matières pour réparer sur place. Et la troisième chose, c'est les compétences qui sont difficiles à trouver. Et leur atelier, vu qu'il est en Asie, elles n'ont pas forcément la structure d'un atelier en France pour pouvoir récupérer les produits, les réparer et les rendre aux consommateurs. Donc, en fait, on a cette double problématique où un particulier cherche à faire réparer son vêtement de sport de manière simple et plutôt rapide, avec une compétence qui est clé. Et les marques également ont ce besoin-là dans le cadre d'un service qu'elles veulent proposer pour tout simplement aussi pousser leur notoriété de marque, parce qu'elles répondent aujourd'hui à des nouvelles exigences de consommateurs qui sont de plus en plus orientées vers cela. On a aujourd'hui des études où on sait que 70% des consommateurs regardent la durabilité comme critère clé de choix d'achat, et donc c'est important de pouvoir répondre à cela. Et on voit aussi de vrais mouvements militants qui se mettent en place avec des boycotts de fast fashion, etc. Et puis, ça permet aussi de fidéliser les clients. C'est-à-dire que s'adresser à sa marque et qu'on reprenne sa doudoune ou sa veste en s'engageant à la réparer, payant ou non, bah, c'est aussi participer à une meilleure fidélisation de la marque parce qu'on est satisfait en tant que consommateur de voir que c'est un service qui est pris en charge après l'achat. Et donc, on a monté une plateforme, un site internet qui fonctionne où le particulier vient renseigner un formulaire de réparation. Donc, il est en cours de rénovation. Il sera rénové milieu décembre. Donc, je vous encourage à aller le voir si ça vous dit sur google.fr. Et donc, l'idée, c'est de répondre à quelques questions pour remplir son formulaire de réparation. Et ensuite, on a développé un système en local à Lyon avec des magasins partenaires en tant que point de collecte. Donc, le client peut venir déposer sa réparation en point de collecte. On a nos couturières en local qui viennent le réparer et elles le remettre ensuite à disposition dans le point de collecte. Pour l'instant, c'est un service qui existe à Lyon et à Chamonix, dans les boutiques Snow Leader à Lyon et Chamonix. Et à Lyon, on a également Neige et Cailloux et Espace Montagne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont de Lyon. Mais voilà, c'est les points de collecte qui fonctionnent comme ça. Et puis, bien sûr, pour les clients plus éloignés, ils peuvent nous envoyer un colis, classiquement. Et puis, on pousse, bien sûr, à mutualiser les envois pour gérer aussi ce côté écologique dans l'envoi des colis. Et pour les marques, en fait, on agit en tant que partenaire de réparation. C'est-à-dire que la marque fonctionne en partenariat avec nous. Pour le moment, beaucoup de marques procèdent à des échanges quand vous avez un problème sur de défaut de production, par exemple sur une veste, une doudoune. Vous la renvoyez et puis ils vous en renvoient une neuve parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas trop gérer la réparation. Et on a de plus en plus de marques qui, du coup, commencent à nous envoyer leurs produits défectueux qu'on les remette en état. Et pour l'instant, les systèmes de débouchés ne sont pas encore très clairs. Soit ils les renvoient directement aux clients parce qu'ils ont proposé la réparation, soit ils les donnent à des athlètes, par exemple, ou à des ventes en interne pour éviter en fait cette perte de vêtements. Ou alors, après, on peut imaginer aussi de la seconde main qui se développe énormément avec des plateformes dédiées dans le sport du type Barouders, Everride, où maintenant beaucoup de marques commencent à se développer là-dessus et vendent en seconde main des défauts de production qui ont été repris ou alors des produits qui ont été remis en état. Donc on fait à la fois de la réparation et un peu de la reprise de défauts de production pour justement essayer de pallier à cette énorme masse de vêtements qui est aujourd'hui mal gérée en fin de vie. Et la chance que l'on a, c'est qu'on a un contexte qui est aidant. On sait qu'on a des lois qui arrivent, comme la loi AGEC, on en a parlé tout à l'heure. On a aussi le PEF. Et puis, alors ReFashion, je ne sais pas s'ils sont intervenus cette semaine, finalement.
Pas cette semaine, là. Ils sont intervenus en Île-de-France.
D'accord. Qui a pour objectif de mettre en place un fonds réparation dédié aux particuliers, un peu comme une subvention aujourd'hui pour acheter un vélo électrique. L'idée, c'est qu'on aide les particuliers à réparer leurs vêtements dans le secteur textile. Donc voilà, aujourd'hui, on a un système vraiment particulier en ultra-local. Pour les marques, on fonctionne bien souvent. Les marques d'outdoor sont basées en région Aura, Annecy notamment, Vallée de Chamonix. Donc c'est vrai qu'on est plutôt bien positionné à Lyon parce qu'on n'est pas trop loin non plus géographiquement. Et puis on ouvre notre atelier. Pour l'instant, on fonctionne avec des couturières en freelance parce que voilà, on démarre. Ça fait un an qu'on est lancé et il faut que ça se mette en place tout doucement. Et on ouvre notre atelier de réparation fin décembre qui va nous permettre vraiment de répondre à cette demande de plus en plus présente des marques. C'est beaucoup elles qui viennent nous solliciter. Et c'est chouette en fait parce qu'on se rend compte que ce qu'on a déjà fait avec les particuliers, ça commence à faire grandir une notoriété autour de la réparation, une satisfaction aussi des particuliers sur ce service qu'on rend. Et puis ça commence à donner des idées, des envies aux marques de s'y mettre. Et donc voilà, on a une approche où les marques d'un côté peuvent influer en proposant un service de réparation à leurs clients. Et puis à l'inverse, ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire remonter aussi du client. Et on sait que dans la société d'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une approche où le consommateur est au cœur. Et en fait, il faut pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Et si ces marques ne s'y mettent pas demain, elles vont perdre des clients. Et on le voit déjà aujourd'hui avec les critères d'exigence de durabilité, d'éco-conception qui sont de plus en plus demandés par les consommateurs. Et donc le contexte est plutôt favorable aussi pour nous.
Comment vous faites pour répondre justement à cette problématique de la disponibilité de la matière, du tissu que tu évoquais tout à l'heure, et puis quid des ouvrières ou peut-être des ouvriers, des personnes qui réparent, qui ont été formées, c'est ça, spécialement pour le vêtement technique ?
Alors pour la première question, pour la question de matière, c'est un bon point. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, la plupart des vêtements sont produits en Chine, et donc les marques n'ont pas à disposition les pièces détachées. On arrive à récupérer des fonds de rouleau, et d'ailleurs on travaille avec FIT pour se mettre en relation parce que ça nous aide aussi. Et finalement, sur la réparation, comparé à de la confection, on a besoin de peu de volume, exactement. En fait, parfois c'est juste des empiècements que l'on pose. Donc on a un vrai sujet là-dessus, et aujourd'hui c'est difficile de rester cohérent sur toute la ligne, dans le sens où on s'approvisionne aujourd'hui en zip, en curseur, parfois en patch, parce qu'aujourd'hui, les marques ne sont pas en capacité de nous les fournir. On commence à développer des partenariats avec des acteurs de l'upcycling, notamment Redim, qui est basé dans la vallée de Chamonix, qui, elle, récupère en fait des invendus de marques. Et puis, elle reconfectionne en upcycling des pièces. Et nous, on arrive à récupérer sur cette confection d'upcycling encore des mini pièces en fait, de matière qui nous permettent, nous, de largement gérer des réparations sur des empiècements, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, à terme, c'est d'accompagner les marques vers cet approvisionnement de matière et d'accessoires qui puissent nous être envoyés directement. Ça permet deux choses. Ça permet d'avoir déjà les stocks et de respecter au plus proche l'esthétique initiale du vêtement. C'est-à-dire que bon, quand on a une veste rose flashy de ski à faire réparer, bon, on n'a pas forcément le bon rose qui correspond. Donc c'est gagnant-gagnant en fait, hein, qu'elles arrivent à mettre ça en place. C'est pas évident, mais ça peut arriver. Et oui, effectivement, j'ai pas qu'il y ait des slides. Donc ça, c'est des choses qu'on propose. On a une doudoune qu'on a sauvée de multiples trous. C'est plutôt une personne très engagée parce que sa doudoune est très vieille. Et finalement, c'est chouette parce qu'on se rend compte qu'on arrive à créer même en réparant. C'est-à-dire que la customisation fait partie de plus en plus de choses qu'on propose parce que autant la réparation rend les pièces uniques, et autant pousser le trait jusqu'au bout en étant unique avec des empiècements colorés ou originaux qui permettent de revendiquer aussi ce côté upcyclé, entre guillemets, et réparé, et puis qui donne un style unique aux vêtements, une nouvelle vie, et avec aussi parfois un nouveau propriétaire. Sur le point des couturières, ça aussi c'est un élément important parce qu'en fait aujourd'hui dans les CAP de couture, on apprend uniquement à créer, on n'apprend pas à réparer, et encore moins sur des matières techniques. Je pense à matières techniques, tout ce qui est par exemple imperméable. En fait aujourd'hui quand on coud simplement, les trous de l'aiguille permettent à des micro-gouttes de passer. Donc quand on a une verse imperméable, ça peut être un peu gênant. Et donc on a toute une technicité autour de réimperméabilisation à travers des bandes étanches, également d'être fidèle à la robustesse de la technique, parce qu'on sait que c'est des vêtements qui sont beaucoup plus en mouvement que des vêtements portés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer un peu notre Good Loop Academy, c'est-à-dire qu'on a deux couturières qui sont formées. Et l'idée, c'est qu'en intégrant des nouvelles compétences chez nous, on puisse les accompagner dans de la formation sur de la réparation de textiles techniques et qu'ils puissent à la fois les faire monter en compétences et développer de nouveaux savoir-faire qu'elles n'auraient pas forcément appris ailleurs. Et puis de toujours essayer de s'améliorer sur la technicité et sur l'expertise que l'on peut apporter dans la réparation. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de la plateforme digitale où on est dans ce partenariat de réparation auprès des marques et des particuliers. Et puis, on l'a vu lors de la table ronde précédente, il y a un gros enjeu de sensibilisation et d'éducation. Et aujourd'hui, on le voit, on a parfois des propos incohérents et on est tous incohérents dans nos manières de consommer. C'est-à-dire qu'on va acheter sur Vinted et puis en même temps, on a une soirée déguisée et puis on va passer dans un magasin, on va acheter plein d'accessoires à 2 euros parce que c'est l'événement. Et on sait qu'on a tous nos torts et ça ne sert à rien de nous blâmer. Mais du coup, on sait très bien que la sensibilisation et l'accompagnement au changement est important. Et donc, on développe beaucoup d'événementiels. C'est-à-dire que, un peu comme Elsa, c'est-à-dire que être auprès des clients, des consommateurs, et puis des boutiques aussi. Ça permet de renouer le lien avec la réalité, comment les gens perçoivent les choses, comment perçoivent la réparation. Et bien souvent, on comprend beaucoup plus et on adhère beaucoup plus en expérimentant. Et donc, on propose des ateliers de réparation. Donc, on peut avoir un côté participatif où on propose aux gens, par exemple, de venir poser leur patch eux-mêmes et qui permet d'avoir un côté assez ludique. Ou alors, on prend aussi en charge des vraies réparations où voilà, on a notre couturière en magasin. Et ce sera le cas d'ailleurs si vous êtes là samedi, on est au magasin Picture de Lyon pour réparer gratuitement tous les vêtements Picture, si vous avez ça dans vos placards. Et puis, on se met aussi un petit peu à répondre à des problématiques d'upcycling, où on a des magasins qui nous demandent proactivement de l'upcycling versus de la réparation. Et donc, on le fait également. Et là, pour le coup, c'est très participatif. Là, c'était devant le magasin Picture à Annecy, où Picture nous a mis à disposition des vieilles vestes qui ne pouvaient pas être vendues. Et donc, à partir de ça, on a créé des snoods, donc des tours de cou, des pochettes, des bananes, des bobs. Et au final, c'est vraiment flagrant la manière dont ressortent satisfaits les gens, parce que c'est vraiment en expérimentant, en comprenant et en participant que on arrive progressivement à faire entrer dans les mentalités que on a tellement de choses à faire aujourd'hui avec les masses de textiles que l'on a aujourd'hui en France ou ailleurs, et que en fait, autant travailler la créativité, autant travailler le style unique avec de la réparation, qui sont une manière de se démarquer, parce que je pense que l'un des enjeux du textile dans tout ce qui est économie circulaire, c'est que finalement, il y a une histoire d'image sociale qui est importante. Et aujourd'hui, tout le monde prête attention à la manière dont il est habillé, et donc la mode répond à cela. Mais aujourd'hui, la mode, elle peut très bien apparaître dans l'upcycling, dans la réparation, dans la friperie. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau que la mode est un éternel recommencement. Aujourd'hui, les polaires un petit peu vintage des années 80 que nos parents avaient sur les pistes, et finalement, moi, ce week-end, j'étais chez mes parents, j'ai cherché dans les placards, j'en ai pas trouvé, j'étais dégoûtée. Mais en fait, on se rend compte qu'on arrive à se recréer un style unique en réutilisant. Et pourquoi pas réparant, mais de manière un peu plus originale, en customisant. Donc l'économie circulaire n'est pas du tout un frein à la créativité, au contraire. Et voilà, nous, on est là aussi pour encourager ces démarches d'une manière adaptée. Il est vrai qu'on a des cibles, nous, on le voit aujourd'hui dans nos clients. On a des amoureux de la montagne qui ont 60 ans et puis qui ont leur sac depuis 15 ans ou leur veste depuis 15 ans. Et ils nous disent, moi, je m'en fous, j'ai tellement vécu de choses avec que je vais la faire réparer. Donc ça, c'est une cible. Et puis, on peut comprendre aussi que vous, étudiants, j'en sais rien, vous avez une doudoune pour laquelle vous avez fait un trou. Et pourquoi pas la réparer en customisant, rajoutant un écusson qui puisse vous permettre de l'utiliser, de la réutiliser plus longtemps, mais de manière adaptée aussi à votre génération et puis qui correspond à une économie circulaire plus millennials, je dirais.
Et puis dans l'air du temps. Merci beaucoup. Et Elsa, donc tu organises aussi des événements justement sous cet aspect sensibilisation, interpellation des particuliers, des consommateurs. Ça fait partie des projets de Les Adore Ça.
Oui, je faisais principalement de l'événementiel avant le Covid pour vendre mes vêtements. Parce que vu que j'ai travaillé en boutique et que j'ai attendu le client pendant des années, je ne veux plus l'attendre. Et l'événementiel, je trouve que c'est génial parce que du coup, ça permet vraiment d'expliquer de sa démarche et surtout de sensibiliser auprès des fibres, parce que consommer seconde... En fait, comme j'explique justement aux gens, c'est chacun met la priorité où il veut. Moi, je l'ai mis dans le bien-être et du coup, je dis vraiment que je suis une marque de bien-être seconde main. Et j'accompagne en fait les femmes aussi, je me forme un petit peu en dermatologie pour les femmes qui ont des problèmes de peau. Et j'anime des ateliers sur les fibres textiles, mais pas forcément que naturelles, donc aussi artificielles et synthétiques, pour vraiment leur expliquer les enjeux qu'il y a, mais que ce soit d'un point de vue écologique, des bienfaits des fibres, où c'est créé, d'où ça vient, pourquoi, etc. Pour vraiment les gens comprennent après les futurs achats qu'ils font, que ce soit en seconde main ou en neuf.
Est-ce que les personnes qui viennent dans ta friperie ont déjà repéré la démarche de ta friperie ou arrivent là un peu par hasard ?
Non, souvent quand ils arrivent, ils n'ont pas vu que c'était du seconde main, donc ils me demandent une autre taille du vêtement qui est en place. Et donc là, je leur explique que c'est du seconde main, etc. Et je fais vraiment souvent je suis la transition entre ceux qui n'ont pas osé passer aux secondes mains, donc ils commencent avec moi, ils se rendent compte que finalement c'est plutôt pas mal, ils ont fait une économie, c'est surtout les, enfin, chez moi c'est beaucoup le cachemire et la soie qui plaît, donc ils se rendent compte qu'ils arrivent à se payer des choses de qualité beaucoup moins chères. Et ensuite, j'ai mis en place à Lyon un prospectus qui recense toutes les friperies de Lyon hors vintage. Donc pour les gens justement qui veulent continuer dans cette démarche de s'habiller seconde main et qui ne trouvent pas chez moi ce qu'ils veulent, ben, en fait, je leur donne une carte où il y a tous mes collègues, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. On a besoin de s'habiller, on aura toujours besoin de s'habiller. Et du coup, ça les permet de continuer à trouver ce qu'ils veulent. Le but pour moi, c'est vraiment qu'ils soient bien dans leurs vêtements, parce que je pense que c'est essentiel pour attaquer une journée et après faire des choses engagées toute la journée.
Merci beaucoup. On va vous laisser la parole. On a du temps pour toutes vos questions sur l'une ou l'autre de ces démarches. Peut-être aussi nous dire quelles sont vos pratiques. C'est un sujet qu'on a eu peu l'occasion d'évoquer parce que ces deux jours étaient assez denses. Voilà, n'hésitez pas à lever la main, à poser votre question ou à dire un peu comment... Voilà, ce que sont des choses que vous pratiquez, la réparation. Est-ce que le vêtement a moins de valeur une fois qu'il est... abîmé, c'est des questions qu'on s'est tous posées. Hein. Est-ce que la seconde main, c'est notamment la seconde main un peu de qualité quand même, parce que c'est vrai que la soie, la laine, ce sont des matières nobles aussi, qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les friperies de coin de rue. Qui est-ce qui voudrait se lancer avec une question, une précision, un témoignage sur ses habitudes?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment la mission première quand on répare dans le textile technique, c'est de garder la fonctionnalité du vêtement ou de l'équipement initial. Et donc, par exemple, on adapte nos matières en fonction du tissu et du vêtement auquel on s'adresse. Donc, les sacs de couchage, on a des matières spécifiques sacs de couchage. Et si il y a un besoin de remplumer, ce qui arrive fréquemment, parce qu'il y a un trou forcément... je ne sais pas si vous avez déjà fait un trou dans une doudoune ou dans un sac de couchage, mais il y a des plumes qui s'échappent de partout. Et donc, on propose effectivement de remplumer ou de carrément remplacer un caisson complet quand c'est le cas, que ce soit sur une doudoune ou un sac de couchage, qui permettent avant tout de garder les mêmes propriétés et les mêmes fonctionnalités qu'à l'initial. Et pareil, en fait, pour les vestes du type Gore-Tex. Alors, je n'aime pas dire Gore-Tex parce que c'est la membrane... qui n'est pas très écologique, mais il y a plein d'autres membranes un peu équivalentes. Et donc, on essaye à chaque fois de remplacer, enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est forcément, on remplace par une matière qui est étanche et qui permet de garder la même fonctionnalité qu'auparavant, au même titre que les fermetures éclair étanches, pour que ce soit le plus pratique avant tout et que ce soit bien respecté.
Ça veut dire que vous avez autour de vous ou vous-même des personnes qui ont une expertise justement sur ces questions, comment on connaît les membranes, quelles sont les alternatives.
Solène et moi, on commence à bien être experte du sujet. Et puis en fait, on se renseigne aussi en fonction de l'équipement qu'on récupère. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'on travaille avec des fournisseurs qui ont la réputation d'avoir une meilleure qualité que d'autres. Donc on favorise plutôt ces pièces-là. Et effectivement, on commence à avoir un stock qui nous permet de répondre assez facilement et rapidement à la demande. Mais voilà, on reste quand même dans la problématique où le mieux, ce serait que les marques nous donnent leur propre matière et ce serait simple. Et puis beaucoup mieux pour les marques aussi de proposer un vêtement réparé avec la même couleur si l'envie est de garder la même couleur.
Une autre question ? Oui. Vas-y.
Une très bonne question. Du coup, c'est principalement par rapport à l'univers esthétique de la marque, parce que du coup, j'ai pas précisé, mais je commence à vendre du H&M jusqu'à Yves Saint Laurent et Chanel à peu près. Donc, j'ai vraiment toute gamme de prix et tout. En fait, je veux pas que le client et le consommateur s'arrêtent à une marque. Et j'essaie vraiment. Il y a des personnes qui viennent chez moi et qui me disent, moi, je porte que du Maje, Sandro, etc. C'est des marques que moi, je trouve pas très qualitative. J'en ai parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche, mais du coup j'essaie aussi des fois de les emmener vers des marques qui sont moins connues et que je trouve beaucoup plus qualitatives. Mais c'est pour ça que je préfère dire que je suis une marque plutôt qu'une friperie, c'est que j'essaie que toutes les pièces vont bien entre elles et je vends pratiquement comme je suis intemporelle, je vends pratiquement que de l'uni ou avec des fleurs ou des rayures, enfin tout ce qui ne peut pas se démoder en fait. Donc du coup, toutes les pièces vont ensemble et c'est aussi l'argument, On est obligé d'argumenter, on est obligé de vendre parce que derrière on doit, c'est une entreprise, mais c'est un petit peu l'argument que j'ai, c'est de dire que la pièce qu'ils vont choisir au sein de ma friperie, du coup elle ira avec tout leur dressing puisqu'elle est très, finalement très simple à porter, mais c'est pas pour autant que c'est les basiques. Par contre ça peut être des pièces avec plein de détails, des coutures, des... Enfin, voilà. Les clients, je trouve qu'ils sont très durs à être fidèles aujourd'hui. Ils reviennent plus par rapport à une matière qu'ils ont découvert. Y en a beaucoup qui, par exemple, portaient énormément d'acrylique ou de polyamide en pull et qui, du coup, et parce qu'ils trouvent que la laine gratte. Et donc, je les emmène vers l'alpaga ou du cachemire. Pareil, j'ai du premier prix en cachemire jusqu'à du un peu plus cher. Et ils reviennent plutôt pour une matière en me disant, ben là, vraiment, je me suis sentie bien dans ce pull. Est-ce que vous avez rentré quelque chose ? J'ai vraiment une approche par rapport à la matière. Et je crois que j'arrive à les fidéliser un petit peu comme ça.
Oui, il y avait une question en haut et puis ensuite tout devant.
Alors, les friperies, du coup, on est plus cher que les associations, mais en temps normal, les friperies devraient être moins chères que les dépôts-ventes puisqu'on ne reverse pas 55% de nos bénéfices à un client. Donc moi, j'ai le parti pris de m'être mis un tout petit peu moins cher du dépôt-vente pour justement faire comme une alternative donc entre les associations où là où il faut vraiment aimer chiner, aimer chercher, il faut avoir du temps, et les dépôts-ventes qu'on voit actuellement et qui vendent beaucoup en ligne, etc., qui ont pour moi des prix un petit peu... c'est pas qu'ils ont des prix exorbitants, c'est qu'il faut se dire qu'ils revendent, qu'ils rendent 50% de 55% maintenant au client qui a déposé le vêtement. Par contre, ils n'ont pas pris le temps de chercher. Mais du coup, les cachemires, je pense que vous l'avez étudié, en fait, le prix d'un cachemire dans le commerce actuel, c'est en fonction du nombre de fils qui a été mis pour le cachemire. Donc c'est un cachemire qui est plus ou moins chaud, mais en tout cas, au contact de la peau, il aura la même propriété. Donc du coup, les cachemires qu'on achète en grande distrib, par exemple, moi, je les revends à 20 euros. Bon, je pars du principe où tout le monde peut payer un pull 20 euros. C'est à peu près, ça fait longtemps que je peux être dans un magasin, mais de mon époque, un pull chez Pimki devait être autour de 20 euros. Et les plus chers sortent à 80 euros pour du Eric Bompard, par exemple, où là, on est sur du 8 ou 12 fils ensemble.
J'imagine que tu as la problématique du foncier dans les grandes villes, ce qui peut expliquer quand c'est des friperies en physique, des boutiques. En fait, quand tu loues ta boutique, le local, bah, bien souvent, c'est plus cher dans les grandes villes. Et c'est un gros problème qu'on rencontre à Lyon en tant qu'entrepreneur ou autre. C'est qu'effectivement, on aimerait proposer un service dans l'économie circulaire qui, de base, n'est pas censé être cher. C'est censé être accessible au plus grand nombre. Et en fait, le prix des locaux sont très chers. Donc en fait, on est un peu coincé. Voilà, donc on est en accompagnement avec la métropole de Lyon pour qu'ils nous aident là-dessus. Mais c'est vrai que c'est forcément une répercussion sur les prix finaux pour les consommateurs, ouais. Alors c'est un bon point, et ça aussi, ça fait le parallèle avec le prix et la perception du prix, qui n'est pas forcément évidente chez tout le monde. Alors si c'est un petit curseur à changer sur une fermeture éclair, c'est 5 minutes. Par contre, s'il faut changer toute la fermeture éclair, ça peut être 2 heures, parce qu'il faut démonter la fermeture éclair qui prend du temps, et ensuite la remonter. Et il est vrai, ça, j'enchaîne du coup sur une problématique auquel on est confronté. C'est que aujourd'hui, donc on a pris le parti pris du coup de faire réparer en France pour relocaliser ce savoir-faire de réparation et puis pour répondre aussi à une démarche de rapidité aussi de réparation. Quand on veut faire réparer quelque chose, en général, privé de sa doudoune là en plein mois de novembre pendant 2 mois, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est aussi de proposer un service comme les retoucheries de quartier qui soit aussi rapide et puis de garder ce savoir-faire en France qui est précieux. Et donc on a par moment des gens qui adhèrent complètement à la démarche et puis quand ils vont jusqu'à la grille de tarifs, ils sont un peu surpris d'un prix. Parce que voilà, une couturière, on la paye aussi correctement et forcément 5 minutes sur un curseur, ça va coûter dans les 12 euros. Par contre, un zip, le changer, ça va être tout de suite plutôt de l'ordre de 50 euros. Après, c'est aussi ce sera toujours moins cher que du neuf, sauf bien sûr si on achète une doudoune d'une marque qui est moins chère. Mais dans ces cas-là, on comprend très bien que ça peut être un frein pour certains. On essaye au maximum de le rendre accessible. Mais c'est pour ça aussi que dans le vêtement technique, je ne sais pas si parmi vous il y a des sportifs outdoor qui sont équipés avec des bons équipements. Tout à l'heure tu parlais d'un sac de couchage à moins 15 degrés. un sac de couchage à moins 15 degrés, c'est pas en dessous de 200 euros, ça c'est sûr. Donc changer une fermeture éclair à 50 euros, finalement on s'y retrouve. Par contre, sur des vêtements qui sont moins chers, on s'y retrouve pas forcément. Après, si on apprécie la démarche, certains le font, d'autres le font pas, et c'est toute une... Voilà, un changement de mentalité aussi, et puis on en parlait aussi dans la table ronde d'avant, c'est redonner de la valeur aux choses. Et aujourd'hui, on a tellement été habitués à avoir tout de suite à un certain prix qui est globalement assez compétitif, qu'on a du mal à se dire, bah, si je veux acheter français, éco-conçu, que ce soit neuf, en seconde main ou réparé, eh ben, je paye du temps de travail derrière qui est... respecté avec des conditions de travail qui ne sont pas celles en Asie, qui a un salaire aussi différent, et puis une qualité qui est aussi parfois supérieure à ce qu'on peut trouver à l'étranger.
Alors il y avait une question devant, par là je crois, et puis à côté de vous, et puis à nouveau en haut.
Alors du coup, j'ai la friperie, moi j'habite à la Guillotière, donc elle est à la Guillotière, c'est une pièce qui est dédiée chez moi. Pour l'instant, parce que du coup, je veux pas. Voilà, j'aime bien faire les choses différemment. Donc, c'est un petit moment privatif, en fait, où en général, si la personne veut que je l'accompagne, je reste avec elle. Mais sinon, je ferme la porte. Et en gros, c'est une boutique pour la personne et elle a fait ses essayages tranquillement. Et ensuite, je développe le côté dépôt-vente. Donc, je pose mes portants chez des commerçants, où du coup, là, les collections sont visibles toute la semaine, tous les jours. Donc, en ce moment, par exemple, je suis au centre de bien-être après la pluie à Vez. Donc ils ont trois portants là-bas, moi j'ai trois portants à la maison, et voilà, j'ai été chez un opticien, là je vais être dans une épicerie vrac. Voilà. J'essaie d'être dans des lieux différents, dans des quartiers différents.
L'événement qu'on organise ce week-end ? Alors c'est un événement qui se passe dans la boutique de Picture à Lyon, qui est rue de la Fromagerie. Et en gros, c'est la réparation est offerte et gratuite pour tous les vêtements Picture. Vous pouvez venir avec vos vêtements Picture et puis on les répare gratuitement dans la journée sur des réparations qui sont plutôt courtes parce que effectivement passer deux heures sur un vêtement, ce serait frustrer d'autres personnes derrière. Et puis si vous avez d'autres réparations plus complexes, on peut très bien les prendre. Elles seront facturées et on vous les remet à disposition 15 jours plus tard. Voilà.
Oui, vas-y. Alors tout en haut à droite, pardon. Est-ce que tu peux reprendre la question un peu plus fort ?
Oui, en fait, pour revenir à la conversation qu'on a eu tout à l'heure, j'ai été dans un incubateur qui m'a demandé de monter un site web. Donc j'ai monté un site web comme une petite folle et je m'en occupe absolument pas parce que je travaille toute seule. Et comme c'est que des pièces uniques, au début je me suis dit que j'allais les mettre régulièrement toutes les semaines et être super organisée et j'y arrive pas. Donc mon site web est complètement à l'abandon et pour être honnête, c'est très compliqué d'émerger un petit peu sur Internet et que quand on tape pull en cachemire seconde main, ce soit à moi qu'apparaisse, même si je travaille un petit peu là-dessus. Du coup, j'ai fait le choix d'ouvrir une boutique professionnelle Vinted, parce que maintenant sur Vinted, on peut avoir un compte perso et un compte pro. Donc j'ai un compte professionnel Vinted où je mets une partie de la collection. Alors soit celle qui a des... Sur Vinted, c'est plus soit les choses qui ont des défauts, soit quand je poste une photo sur mon Instagram, après derrière, je mets l'article en vente sur Vinted. Parce que du coup, je gagne en visibilité, je gagne en temps et je vends plus rapidement. Donc mais par contre, tu soulèves le gros défaut de ma friperie, c'est que c'est très compliqué de voir mes articles parce qu'il faut savoir où je suis sur les horaires d'ouverture, etc. Donc à distance, le mieux, c'est Vinted ou Instagram.
Oui, vas-y, donc au milieu.
Pour la réparation ? Ouais, c'est un bon point. En fait, on est lancé depuis un an. Donc aujourd'hui, on a un peu choisi nos combats en répondant à des besoins qui émergeaient plus que d'autres, donc les particuliers et les marques. Les magasins aussi, hein, par exemple le Vieux Campeur, il peut y avoir des demandes là-dessus. Mais effectivement, c'est un bon point. En fait, on a envie aussi d'approcher des clubs de sport, des municipalités, des organisations type scout, qui, eux, au quotidien aussi, dans leur activité, font appel à de l'équipement spécifique, de la tente pour les scouts notamment, ou des clubs de sport dans le ski, par exemple, où il y a une accumulation... d'équipement, les guides aussi, les professeurs d'école de ski de l'ESF, voilà, il y a plein de terrains et de cibles qu'on aimerait toucher. On essaye d'y aller avec le temps qui nous impartit, comme je rejoins Elsa sur le fait que parfois on se lance un peu dans plein de trucs et puis en fait on se dit on n'est que deux, on n'y arrivera pas jusqu'au bout, du coup on priorise, mais c'est effectivement des leviers hyper intéressants auxquels il faudrait qu'on qu'on pense aborder prochainement.
Oui, une autre question, vas-y.
Alors jusqu'à maintenant, j'osais pas, je changeais juste les boutons et je disais rien à personne. Et en fait, je me rends compte que les cachemires sont souvent attaqués et les pulls en laine aussi. Donc à présent, je les mettais de côté et je les offrais à des étudiants en fin d'année via le site Give pour qu'ils puissent faire des créations dans des belles matières. Et en fait, là, j'essaie de me former sur le remaillage. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui font ça en France et c'est très long. Du coup, maintenant, je remaille comme je peux à la maison. Et après, je mets un petit sticker en fait, partout où le pull a été remaillé. Et je le note sur l'étiquette, donc le prix est de moins 50%. Et à chaque cœur, en fait, à chaque petit cœur, ça veut dire qu'il y a un petit défaut. Donc c'est à la personne de voir si pour ce prix-là, elle est d'accord pour porter un pull avec un défaut. Mais je ne suis pas très bonne en couture, donc j'aurais vraiment besoin d'aide là-dessus.
Il y avait une question encore. Ici, oui, vas-y.
Aujourd'hui, les événements que j'ai faits, ça a été principalement dans des lieux un petit peu engagés de Lyon, parce que je sais que la clientèle répond. En fait, je vais surtout dans des lieux où les gens font déjà très attention, par exemple, à ce qu'ils mangent et quels cosmétiques ils mettent. Et je trouve que la dernière étape, du coup, c'est de savoir quelle fibre porter pour que ça aille dans la démarche. Donc là, par exemple, ce week-end, j'étais sur les 7 ans de la Gonette. Pour ceux qui sont de Lyon, peut-être que vous connaissez, c'est la monnaie locale de Lyon. Donc c'est 1 euro vaut une gonette et du coup on fêtait cet événement là donc les gens pouvaient nous payer en gonette et après on peut le dépenser uniquement dans des lieux engagés à Lyon. Après je vais dans des... qu'est-ce que j'ai fait quand même, j'ai The Greener Good, pareil, c'est un guide lyonnais donc de mode éthique, de cosmétique éthique, etc. Je vais dans un lieu qui s'appelle La Commune où c'est un incubateur à restaurant, donc du coup voilà, je sais, France. En 3 ans, j'avoue que je sais plus, mais c'est dans des lieux assez engagés. We Dress, non, pas encore avec eux. J'aimerais, ouais. Et par contre, pardon, voilà. Il y avait une pour la visibilité. J'avoue que je cherche depuis une bonne année une influenceuse assez engagée que je pourrais financer sur Instagram pour gagner en visibilité. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Donc si vous avez des noms et si vous suivez des influenceuses engagées en mode, avec plaisir.
Oui, allez. Est-ce que je peux compléter? Enfin, pas compléter, mais j'ai une question un peu qui s'approche, peut-être un peu pour toutes les deux. On a beaucoup parlé de l'évolution des modes de consommation, d'une meilleure sensibilisation. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des projets qui vont exploser, en fait, qui sont à la fois pionniers, mais qui vont... oui, on vous le souhaite. Et tu disais que ton modèle n'était pas pérenne, mais bon, c'est en effet, quel est le... Moi, on a plutôt l'impression que ça devrait se pérenniser, en fait.
Mon modèle, il pourra se pérenniser uniquement si les personnes qui achètent du neuf, en fait, achètent de la fibre naturelle. Donc, du coup, c'est pour ça que je sensibilise et les gens qui achètent du seconde main et du neuf. Et je leur dis, si vous continuez à aller dans peu importe quelle boutique, moi, le but, c'est que vous achetez du cachemire parce que si après, vous pouvez me le revendre, c'est parfait, ça m'évitera de le chercher. Donc, c'est vraiment ça. Et après, sur Lyon, il y a une boutique seconde main pour enfants qui s'appelle Loca Loca qui rachète au kilo. Et j'aimerais vraiment essayer de reprendre un petit peu son idée et de racheter au kilo directement, en fait. Donc de sensibiliser les gens qui ont des vêtements en fibre naturelle de venir me les vendre au kilo pour moi gagner un petit peu sur le temps de Chine, même si j'arrêterai jamais parce que je pense que c'est une passion et je continue à me lever tous les samedis matins pour aller faire des vide-greniers. Mais au moins pour que ce soit justement pérenne et que je puisse en vivre.
Et ta question, si tu veux la reposer, c'était...
Je pense que j'ai monté une toute petite structure et j'aimerais qu'elle reste toute petite. Je me dis que si au final on peut être 5, une personne sur la com, une personne qui vend, une personne, pourquoi pas ouvrir une boutique, ça serait un rêve, mais vraiment d'avoir une personne qui la gère pour moi, parce que moi je veux plus du tout être en boutique, mais du coup trouver un profil qui a aussi toutes ces notions, donc qui a envie de se former en fibre, qui a envie de se former en dermatologie, qui a envie de se former en repassage, parce que des heures et des heures de repassage, de machine à laver, c'est tout ce qu'on voit pas à l'envers de la friperie. Donc voilà, moi si on pouvait faire ça, ça serait cool et ouais, ça serait vraiment l'objectif, ça serait de pouvoir en vivre, d'avoir une boutique avec quelqu'un qui la gère et que moi j'ai plus que ce temps-là pour acheter et acheter et acheter.
Une réaction ? Et moi du coup c'est pour sur la pérennité. Ben nous c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'en toute transparence aujourd'hui on est deux avec un alternant et une couturière qu'on compte salarier en janvier. L'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de volume de réparation, puisque c'est la quantité de réparation qui nous permettra de rembourser nos charges locatives, nos charges d'approvisionnement de matière, etc. Donc c'est vrai que c'est souvent l'enjeu de l'économie circulaire, hein, c'est d'arriver à trouver une rentabilité, de pouvoir en vivre. On le fait par passion, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'on arrive aussi à en vivre et se payer correctement. Donc voilà, c'est en gros, on s'est donné 2 ans, donc c'est sûr, on sera là encore dans 2 ans.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a nos 2 autres dernières questions ? Bien sûr, oui, un mot de fin, bien sûr.
Juste un dernier point que j'aimerais soulever, c'est par rapport aux dons pour les personnes qui ne vendent pas sur Vinted ou qui essaient et qu'en final, on a toujours des vêtements à donner. C'est de se dire qu'un vêtement qui n'est plus utilisé est vraiment on peut presque le comparer à de l'argent et que dans la borne où vous allez le mettre ou à qui vous allez le donner, ça va vraiment être important pour la suite, en fait. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un article justement sur mon compte Instagram qui recense les différentes associations, alors lyonnaises ou françaises, et leurs engagements pour savoir, en fait, si on donne à la Croix-Rouge, par exemple, on soutient tel mouvement, si on donne à Emmaüs, on soutient tel mouvement, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est un vrai engagement qu'on doit avoir derrière le vêtement, et ça peut être un acte écologique, mais aussi un acte solidaire.
Très bien, mais ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toutes les deux d'être venues participer à cette table ronde. Merci beaucoup à vous. J'espère que ces 2 jours ont été riches. Merci pour vos questions vraiment sur les 2 jours très pertinentes, intéressantes et votre engagement. Et bonne chance pour le concours.